bonjour et bienvenue dans Questions Politiques. Merci d'être fidèle au rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Notre invité jusqu'à 13h, c'est le leader de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Il était aux côtés d'Emmanuel Macron dans sa conquête du pouvoir, l'un des tout premiers à croire et à s'investir dans cette aventure politique. Et il reste un proche parmi les proches du président de la République. À un an et trois mois de la prochaine élection présidentielle, pense-t-il qu'un duel Macron-Le Pen est inéluctable? Et la scène politique française est-elle maintenant profondément et durablement structurée par la bipolarisation RN-LREM? Il nous dira pourquoi il voit en Marine Le Pen une ennemie de la République, ce sont ses mots. Le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner, est notre invité. Une heure pour revenir avec lui aussi sur l'actualité, la crise sanitaire, la loi climat, l'égalité des chances. Pour intervenir, l'application mobile France Inter et les réseaux avec le hashtag #QuestionPol.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Bonjour Christophe Castaner.
Bonjour.
Et bienvenue pour vous interroger l'équipe de Question Paul, Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour Ali, bonjour à tous. Bonjour.
Solène Deroyer du journal Le Monde. Bonjour Solène.
Bonjour à tous.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Karine qui a préparé votre portrait Christophe Castaner et nous le découvrirons ensemble tout à l'heure. Si la politique était aussi une question de météo, quel temps fait-il en France pour vous?
Il fait un temps tourmenté du fait de l'inquiétude qui persiste dans notre pays à cause de la crise sanitaire que nous vivons depuis un an, qui transforme nos habitudes, qui nous prive de quelques libertés et de quelques bonheurs, de quelques plaisirs. Et on a besoin de ces bonheurs et de ces plaisirs-là. Donc c'est un temps tourmenté, mais je pense que c'est le printemps et que nous avons des échéances positives. Et en plus, c'est la Saint-Valentin. Mais prenez ce seul exemple. Il y a des couples aujourd'hui qui aimeraient souhaiter différemment la Saint-Valentin que ce qu'ils pourront faire. Ça montre bien aussi toute la tension qui existe dans notre pays.
Une tension qui est liée à la crise sanitaire, une tension aussi dont on a l'impression qu'elle est liée aussi à une mise en scène, à un jeu de rôle, comme si les jeux étaient faits et que dans un an et trois mois, comme je le disais, nous allions nous retrouver inéluctablement face à un match Macron-Le Pen. Pour le dire aussi brutalement que ça, vous y êtes prêts, c'est votre scénario, il n'y a pas d'alternative et c'est ce que vous êtes en train d'imaginer que vous allez devoir affronter.
D'abord, dans un engagement politique, il faut se préparer à toutes les hypothèses. Mais souvenez-vous, il y a 5 ans, à 1 an et 3 mois de l'élection présidentielle, qui pensait qu'Emmanuel Macron serait président de la République? Pas grand monde. Et donc, du coup, moi, je ne crois pas au déterminisme politique. Ce dont je me souviens, c'est quand Emmanuel Macron lance sa campagne à la mutualité le 13 juillet 2016, il se fixe un objectif. Celui de refuser que Marine Le Pen soit en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Et nous avons atteint cet objectif. Et donc, fixons-nous l'objectif d'avoir un débat entre républicains sur un fond structuré et un fond philosophique qui montre des oppositions, et pas sur du populisme face au progressisme. Marine Le Pen incarne le populisme de ce pays.
Mais est-ce que, justement, ce matin, dans une interview, Ali le disait tout à l'heure, vous qualifiez Marine Le Pen d'ennemi de la République. Quand on écoutait Gérald Darmanin l'autre soir face à Marine Le Pen sur France 2, il considérait qu'elle avait une forme de mollesse. Alors, est-ce que vous êtes en désaccord total sur le diagnostic, ou alors ce que c'est, pour ratisser large, que vous donnez les deux versions?
Christophe, je ne crois pas une seconde que Gérald Darmanin partage les convictions de Marine Le Pen. Et ceux qui ont écouté l'émission ont vu que quand il lui reprochait la mollesse, c'était pour dénoncer au fond ses discours variables selon l'endroit où elle est.
Ça la dédiabolise un peu plus quand même.
Non, mais elle se cherche effectivement une respectabilité. Mais le fond, c'est ce qu'elle représente, ce qu'elle est depuis des années. Ce foyer familial dans lequel elle vit et dans lequel elle puise tout ce qui aujourd'hui me fait penser qu'elle est une ennemie de la République. La République, c'est l'égalité, la liberté, la fraternité. Quoi dans le discours de Marine Le Pen nous invite à la fraternité? Rien. C'est plutôt la guerre de tous contre tous qui est organisée de façon permanente.
Mais pourquoi vous répondez mollesse?
Pas tous en même temps,
Ça donne l'impression, pour quelqu'un qui regarde, que finalement on dit « Oh, bah, elle a changé, elle est un peu molle maintenant ».
Non, mais là, je pense...
Est-ce que c'était malin, cette stratégie?
Non, mais d'abord, je veux dire, je n'ai pas regardé cette émission. Nous étions en
stratégie, c'est de la dépasser sur la droite
dans l'hémicycle sur la loi qui défend les valeurs de la République. Mais ce que je sais, c'est qu'il a voulu dénoncer à travers ce propos son discours, son double langage et son double langage permanent.
Solène Deroyer, puis Karine Bécard.
Oui, en faisant de la surenchère avec Marine Le Pen, est-ce que vous ne redoutez pas de faire fuir les électeurs de gauche en 2022?
Mais je ne crois pas que nous fassions.
Ce que Benoît Hamon a dit, il s'est senti cocufié par les propos de M. Darmanin.
Oui, ce ne sera pas la première fois que Benoît Hamon se trompe. Il l'a montré, notamment dans la campagne présidentielle qu'il a portée pour le Parti Socialiste il y a 4 ans maintenant. Je ne vais pas commenter les commentaires de Benoît...
C'était votre camarade, c'est charitable, Christophe Castaner, c'est l'esprit.
Nous avons même été très proches avec Benoît Hamon. Nous étions jeunes rocardiens tous les deux. Je pense que je suis resté rocardien.
Malgré tout, Christophe Castaner, en choisissant comme ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, dont on connaît les propos sur la laïcité, sur l'immigration, sur la sécurité, qui ne sont pas très éloignés malgré tout des propos de Marine Le Pen, est-ce que vous n'avez pas pris le risque dans la majorité, est-ce que Emmanuel Macron n'a pas pris le risque finalement de valider une partie de la rhétorique extrémiste?
Mais vous savez, Gérald Darmanin, comme moi, quand j'étais dans les mêmes fonctions, met en œuvre le projet présidentiel sur lequel Emmanuel Macron a été élu. Sur la laïcité, Emmanuel Macron a toujours été d'une grande clarté. La laïcité, c'est garantir à chacun le droit de croire et le droit de ne pas croire. Mais c'est aussi refuser qu'au nom d'une conviction religieuse, on puisse dire qu'il y a des lois religieuses qui seraient supérieures aux lois de la République. Ben, c'est ce combat-là que nous menons. J'avais initié avec Gérard Collomb le projet de loi contre les séparatismes pour les valeurs de la République. Gérald Darmanin a poursuivi ce travail et a ajouté des éléments de combat contre ceux qui mettent en cause la République. Et donc, il met en œuvre le projet présidentiel. Il ne fait pas la course avec qui que ce soit et encore moins avec Marine Le Pen.
Mais est-ce que vous vous sentez encore, dans la majorité, comme le rempart à l'inexorable progression montée vers le pouvoir de Marine Le Pen?
Est-ce que vous savez, quand je regarde le paysage politique aujourd'hui, je m'aperçois par exemple qu'il n'y a plus que nous, La République En Marche, et je porte cela au fond de moi, qui pensons que le Front Républicain face au Front National est nécessaire. Quand je vois le Parti Socialiste aujourd'hui nous annoncer qu'il abandonne le Front Républicain, quand je vois que la France Insoumise ne l'a pas mise en œuvre, quand je vois que les LR, qui doutaient déjà en 2017, aujourd'hui sont clairement hostiles au Front Républicain, je me dis qu'effectivement, il y a un risque. Mais nous sommes les combattants contre le Front National.
Mais pardon, vous n'avez pas répondu, M. Castaner, à ma question de tout à l'heure. Je vais la reposer différemment. Comment justifier un Front Républicain, dont vous parlez, en 2022, si Marine Le Pen est jugée trop molle ou trop timorée sur un certain nombre de sujets? En quoi est-elle encore l'ennemi de la République?
Si vous réduisez l'analyse...
C'est ça qui a semé la confusion dans les propos de M. Darmanin.
Non, mais d'abord, je ne suis pas commentateur de tel ou tel propos. Je vous parle politique, je vous parle ambition, je vous parle de La République En Marche, je vous parle du président de la République et du projet politique que nous avons porté et que nous mettons en œuvre aujourd'hui. N'interprétez pas le mot de Gérald Darmanin comme étant une connivence avec Marine Le Pen. Il a montré pendant 50 minutes de débat que les connivences étaient relativement faibles et qu'il était plutôt un combattant contre elle.
Christophe Castaner, ce qui est intéressant justement dans le livre de Gérald Darmanin, c'est qu'il formule au fond l'esprit de la loi qu'il porte aujourd'hui devant les députés, ce projet de loi pour conforter les principes républicains. Lorsque Marine Le Pen dit qu'elle aurait pu signer ce livre,
mais vous savez très bien qu'elle fait un exercice de rhétorique politique. Et vous, Ali Badou, vous n'allez pas tomber. Non, mais vous n'allez pas tomber dans son piège là. Elle joue à cela. Mais c'est tout l'inverse. Parce que la réalité de Marine Le Pen, c'est quoi? C'est cette opposition systématique des Français les uns aux autres. C'est la stigmatisation. C'est la xénophobie de certains de ses membres quand ils s'expriment.
Je me souviens de sa nièce,
candidate en Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui voulait faire fermer le planning familial dans la région PACA. C'est ça, la réalité. C'est aussi celle qui, par exemple, prône la suppression de la redevance audiovisuelle parce que le service public, France Inter, ne dit pas ce qu'elle a envie d'entendre. Et donc, ne réduisez pas Marine Le Pen à son petit coup politique qu'elle fait en brandissant le livre de Gérald Darmanin.
Parlons dans ces cas-là de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, projet de loi donc pour conforter les principes républicains. Lorsque vous la qualifiez d'ennemi de la République, est-ce qu'il y a un sens à dialoguer avec elle? Est-ce qu'elle tomberait sous le coup de cette loi que vous vous apprêtez à voter après-demain?
Est-ce qu'il y a un sens à dialoguer avec elle? Je pose la question aux journalistes qui l'invitent sur les plateaux. Et il est normal qu'elle soit invitée sur les plateaux parce qu'elle porte une parole politique que je condamne. Mais je considère que malgré, l'inconstance de Marine Le Pen dans ses expressions, et on le voit sur la durée de son action politique.
Mais elle pourrait tomber sous le coup de la loi, de cette future loi sur les principes républicains.
Il y a certains propos qui effectivement sont tenus par des membres du Front National qui pourraient nous amener à contester le Front National dans sa globalité, y compris à faire condamner le Front National. Peut-être que nous ne l'avons pas assez fait à certains moments. Moi, j'ai toujours été un combattant. Je veux dire, mon engagement politique, c'est aussi lié à ma génération, c'est fait. par rapport à l'angoisse que portait le Front National, par rapport à cette xénophobie, par rapport à l'instrumentalisation des peurs, des fake news aujourd'hui. Mm-hmm. C'est ça la constance de Marine Le Pen, pousser la stratégie du complot, s'aligner sur George Soros. C'est ça aussi la constance de Marine Le Pen. Et donc je pense qu'il nous faut le soutien à génération identitaire de Marine Le Pen. Vous cherchez des divergences pour non celle-ci. Et donc, je crois vraiment qu'aujourd'hui, nous devons utiliser d'abord le combat politique contre Marine Le Pen. Et je serai ce combattant intarissable et insatiable contre les idées du Front National, parce que je pense que notre République a besoin de fraternité. Et qu'aujourd'hui, ceux qui combattent la fraternité sont effectivement les ennemis de la République.
Alors justement, Nathalie, côté fraternité, on pourrait aussi entendre au plus La République En Marche. On a l'impression que dans le volet intégration, main tendue, ascenseur social, égalité des chances, bah finalement, ça passe un peu à l'as. Alors, effectivement, Emmanuel Macron a fait quelques déplacements, nous a annoncé une plus grande diversité dans les recrutements, notamment dans la haute fonction publique, mais est-ce que c'est pas un peu léger tout ça par rapport au volet tour de vis ?
Ça fait 3 ans.
Christophe Castaner.
Ça fait 3 ans que nous menons ce combat pour l'égalité des chances. Au quotidien, quand nous dédoublons les classes dans les quartiers les plus difficiles de France, nous contribuons à l'égalité des chances.
On a des résultats d'ailleurs, des effets de cette politique qui a été engagée dès les premiers mois du quinquennat.
Jean-Michel Blanquer a émis une évaluation systématique et dès les premiers mois, c'était très révélateur. Alors, ça n'est pas scientifique, mais je vais vous dire un vécu que j'ai eu moi. J'ai le souvenir d'avoir échangé avec une maman qui avait déjà eu plusieurs enfants, qui était dans des écoles à 25-30 élèves et qui, c'était juste après Noël, me disait, c'est le troisième de mes enfants qui est dans cette école, en classe dédoublée, et vous imaginez pas. Aujourd'hui, il commence à écrire, il commence à lire. Et on était seulement en décembre. Et elle avait sa propre expérience, celle d'une maman avec 2 enfants qui avait connu, au fond, cet apprentissage qui n'était pas adapté. Parce que il y a une inégalité des chances fondamentale dans l'école. Mes filles ont connu des écoles de campagne à Fort-Quelquier. Elles ont été accompagnées par, en particulier, leur maman. Chaque fois qu'il y avait une difficulté, on pouvait prendre en compte cela et demander à un étudiant en maths de venir lui donner des cours, etc. Ça n'est pas le cas, souvent, dans les familles monoparentales, dans les familles nombreuses, dans les familles où on ne maîtrise pas forcément le français. Et donc, il faut un super accompagnement. Et c'est ce que nous avons mis en place. Et les effets sont significatifs.
Mais ce dédoublement des classes, c'est un peu le seul
volet.
Plus particulièrement sur l'égalité des chances, la mixité sociale. Et deuxièmement, je complète un tout petit peu, est-ce que ça manque pas un peu d'incarnation dans le gouvernement ? Je précise, le volet droite, on voit bien, qui le représente. Le volet gauche, vous allez me dire Jean-Yves Le Drian, Olivier Dussopt, mais enfin, on ne les entend pas énormément et ce n'est pas leur domaine. Donc, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui l'incarne ?
Alors, il y a 2 sujets. D'abord, sur cette égalité des chances, sur cette jambe de gauche que certains appellent de leur souhait. Moi, je pense que ce n'est pas une question de jambe de gauche ou jambe de droite. Quand on augmente le minimum vieillesse de 100 euros, l'allocation adulte handicapé de 100 euros, quand on double le congé paternité, pour prendre quelques exemples, la prime d'activité, la défiscalisation des heures supplémentaires, c'est du pouvoir d'achat qu'on donne, est-ce que c'est de droite, est-ce que c'est de gauche ? Objectivement, ça n'est pas mon débat. Quand on supprime la cotisation sociale à la sécurité sociale des étudiants, est-ce que c'est de gauche ou est-ce que c'est de droite ? Ça n'est pas mon débat. Alors, il peut y avoir, et je vais répondre à votre question, et je pourrais rappeler d'autres mesures, le remboursement à 100% des lunettes,
des prothèses. Vous êtes dans le bilan déjà de
lunettes des dents.
Mais oui, parce que la question qui m'a été posée réduisait l'action sociale que nous avons pu conduire uniquement aux 2 annonces de la semaine dernière. Alors, si on prend 15 jours déjà, on pourrait remonter au comité interministériel des villes où le Premier ministre a annoncé 3,3 milliards d'euros pour la politique de la ville. Et si on remonte à 3 ans, on peut quand même constater qu'on a doublé notre mobilisation dans l'ANA pour la politique de ville de 5 à 10 milliards. Donc, en gros, à moyen terme, à court terme, nous faisons des choses et nous devons continuer à faire des choses.
Sauf qu'on n'a pas eu l'impression, et voilà, Nathalie Sagric a raison, vous n'arrivez pas à imprimer sur ces sujets de gauche.
Par exemple, pour compléter les 2 questions, pourquoi avez-vous fait le choix de ne pas avoir mis en scène un grand plan pour l'égalité des chances ? C'est-à-dire qu'il y a eu une loi de séparatisme très visible, donc un volet régalien très, très visible. Et par ailleurs, vous choisissez de dégrainer au fil de l'eau des mesures sur l'égalité des chances sans mettre en scène ce volet social. Pourquoi ?
Parce que je pense que la politique ne peut pas se réduire à une mise en scène, mais quand on fait une loi sur le logement portée par Julien de Normandie, on contribue à l'égalité des chances dans les quartiers. Quand on porte une loi sur Egalim et qui prévoit de traiter la restauration scolaire, on y contribue aussi parce que généralement, ce sont les enfants les plus défavorisés qui ont besoin de la restauration scolaire et on leur propose une alimentation de qualité. Ce combat-là, il est permanent. Alors, il n'a pas besoin d'être sacralisé dans une grande loi. Et je vais répondre à la question sur la question de l'incarnation. C'est peut-être effectivement une faiblesse. Dès 2017, j'étais porte-parole du gouvernement, je m'en souviens bien, nous avions des personnalités politiques puissantes, médiatiques, qui ont su attirer la lumière, qui étaient peut-être les plus professionnelles de la vie politique et qui venaient plutôt d'un environnement de droite. Le Premier ministre,
Philippe, Bruno Le Maire,
Gérald Darmanin. Quand en face, nous avions des personnalités éminentes qui venaient plutôt de la gauche, Muriel Pénicaud, et qui a mené une politique profondément marquée par sa culture de gauche, ou Agnès Buzyn, n'ont pas forcément été identifiées comme telles. Mais je pense vraiment que nos concitoyens, ils se préoccupent pas de savoir si l'étiquette d'un ministre ou le parcours d'un ministre vient de la droite ou vient de la gauche. Par contre, les millions de personnes, 1 million de personnes qui ont acheté une voiture et qui ont eu la prime à la conversion, eux, ils voient des choses concrètes. Donc je pense qu'il faut, effectivement, et c'est le propre de la politique, c'est une question de perception, je le dis souvent. Et donc, il faut travailler sur cette perception. J'essaye d'y contribuer avec vous. Mais c'est aussi du concret. Et quand il y a 1 million de personnes qui ont changé de véhicule, on parle à cela.
C'est vrai qu'il y a de l'amour et il y a les preuves d'amour. Et en l'occurrence, quand on parle de concret, mais parce que c'est la Saint-Valentin, justement, Christophe Castaner, lorsque vous tendez la main dès le premier tour à Renaud Muselier pour qu'ensemble vous vous battiez pour la région PACA et contre le même adversaire, on a le sentiment que vous vous trouvez plus spontanément proche dans vos alliances politiques aujourd'hui avec la droite qu'avec la gauche.
Bah d'abord parce que j'aurais du mal à vous dire qui à gauche va conduire la liste aux élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ou alors je vais vous citer 4-5 noms différents. Donc je suis un garçon pragmatique. Je sais que dans cette région il y a un risque de Front National. Marion Maréchal Le Pen a fait 44% il y a 5 ans. Je me suis retiré dès le premier tour pour faire élire Christian Estrosi. Et je peux vous dire que c'était pas mon naturel politique de me tourner vers Christian Estrosi. Mais non. Par contre, entre mes adversaires et les ennemis de la République, je fais la différence. Et donc j'ai choisi Christian Estrosi. Aujourd'hui, Renaud Muselier est sortant. Mais il n'a pas été élu. Le Front National progresse dans cette région. Et donc je lui tends la main pour qu'on puisse construire ensemble une offre politique pour la région.
Ça veut dire une liste commune ?
Moi je lui tends la main, y compris jusqu'à la liste commune. Mais y compris jusqu'à la liste commune, je suis clair sur ce sujet. Mais à la condition qu'il le veuille, à condition qu'il veuille travailler aussi avec la majorité présidentielle, maintenant c'est à lui de le dire. Mais on peut fermer les yeux et faire comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas de problème Front National dans cette région, où là on peut décider de se battre. J'essaie d'être cohérent. Dès la première
question. C'est une question nationale
que vous
c'est une question justement qui a trait à certaines régions spécifiquement, certains départements.
Oh non, je pense que c'est territorial, c'est partout où il y a un risque de Front National, on ne peut pas jouer avec.
Ça donne quand même le sentiment d'un glissement politique de La République En Marche.
Non, moi je n'ai pas l'impression d'avoir glissé politiquement, et quand je regarde d'ailleurs, y compris électoralement, les sondages de premier tour, même si on sait tous que ça ne veut rien dire, vous regardez la structure des 24 points que Emmanuel Macron fait au premier tour, vous apercevez que le socle est à peu près celui que nous avions eu il y a 4 ans. Et le total gauche est faible, parce qu'une partie du socle de total gauche, les sociodémocrates, restent fidèles. Donc au fond, quand on regarde la sociologie de ceux qui ont l'intention de voter pour Emmanuel Macron, il y a une vraie différence avec le discours que j'entends, notamment les commentateurs.
Bien sûr, vous ne savez pas.
Voilà, je suis parfaitement d'accord avec Solène Doriel, vous avez combattu Christian Estrosi et 5 ans plus tard, vous êtes d'accord pour vous associer avec lui, puisque Renaud Muselier est son successeur, dès le premier tour.
Mais on peut mettre les choses à l'envers.
Donc il y a un glissement.
J'ai effectivement, au nom de mon combat contre le Front National, favorisé l'élection de Christian Estrosi. Et j'ai remarqué depuis que Christian Estrosi, à de nombreuses reprises, s'est rapproché de la majorité présidentielle. Alors ne nous reprochez pas d'élargir la base de soutien à notre politique. C'est pas parce que Christian Estrosi vient de la droite, il est toujours LR, qu'il dit du bien du président de la République, que je veux dire c'est moche. Non, il soutient le président de la République globalement dans ses combats économiques, dans la gestion de la crise sanitaire, dont acte. Et c'est plutôt bien, plutôt que de voir en face de nous des gens qui ont des réflexes pavloviens, qui dénoncent tout et qui ne construisent rien.
Est-ce qu'il serait imaginable de dissoudre le Rassemblement National ?
Non mais attendez, je
reprends vos mots, ennemis de la République, ce sont des mots extrêmement clairs et durs, Christophe Castaner.
Je suis un homme politique.
Ennemis de la République, ce sont les mots que vous employez dans l'hémicycle pour qualifier les islamistes radicaux, pour qualifier ceux qui veulent faire sécession par rapport à la République. Bon, expliquez-nous
Ah non, mais j'ai tenté de vous expliquer, et vous trouvez que je suis trop brutal avec le Front National, c'est votre regard. Moi, je considère que quand on est dans l'outrance permanente, je considère que quand on instrumentalise les peurs, comme le fait Marine Le Pen de façon systématique, elle n'apaise pas la République. Je ne suis pas magistrat, je suis un homme politique. Et l'homme politique considère effectivement qu'elle n'apaise en rien la République, et qu'on doit protéger la République. Et elle, elle fait l'inverse, elle organise une guerre de sécession, du tous contre tous. Et c'est cela, et c'est en cela qu'elle est une ennemie de la République.
Alors, elle a quand même des résultats électoraux qui sont assez importants. À propos de la proportionnelle, je ne comprends pas exactement votre position, ni celle d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, ni celle de personne. Ça avait été un engagement de campagne, d'une dose de proportionnelle. On s'approche maintenant de l'échéance. Vous avez l'air d'être pour intellectuellement, mais pas forcément pour l'application dès maintenant. Vous en êtes où? Et est-ce qu'on peut laisser autant de citoyens non représentés à l'Assemblée, au risque de les voir dans la rue, ce qu'on a vu un petit peu au moment des Gilets jaunes?
Christophe Castaner.
D'abord, je ne crois pas que les Gilets jaunes ne soient que ceux qui n'étaient pas représentés à l'Assemblée nationale, ou peut-être insuffisamment représentés. Mais vous savez, on a un mode de scrutin qui permet d'avoir une majorité, qui permet justement d'avoir une sérénité aussi dans l'équilibre de nos institutions.
Il y a un peu d'opposition représentée aussi.
Non, mais attendez, il y a des regards critiques. Le Sénat, par exemple, aujourd'hui, est plutôt une force d'opposition. C'est la deuxième chambre. Ensuite, on peut choisir aussi ses opposants. Mais je vais répondre à la proportionnelle. Le président de la République avait pris un double engagement. Celui d'une dose de proportionnelle et celui de la baisse du nombre de parlementaires.
Oui. Il l'a porté
constitutionnellement, et vous connaissez les raisons pour lesquelles le projet constitutionnel n'a pas abouti. Mmh. Ensuite, il a mandaté Richard Ferrand et le président de l'Assemblée du Sénat, Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, président du Sénat, pour essayer de trouver un chemin. Nous n'avons pas trouvé de chemin. Alors maintenant, il y a plusieurs propositions qui sont sur la table. Je dis deux choses. D'abord, il faut savoir quelle est la bonne. Certains portent au sein du MoDem, par exemple, une proposition de loi qui a été déposée, qui est la proportionnelle intégrale pour les 577 députés. Je pense que s'il n'y a pas de prime majoritaire, il y a un risque de déséquilibre de nos institutions. Et nous nous retrouvions dans un schéma à l'italienne, même si là, il y a une composition de gouvernement un peu surprenante, mais qui, je souhaite, fonctionnera.
Invraisemblable.
Mais qui est plutôt... Oui, elle est étonnante, à minima.
De l'extrême gauche des populistes, de Pepe Griot, à l'extrême droite de la Ligue, au technocrate de Mario Draghi, c'est vrai que c'est quelque chose dont on se demande si c'est l'avenir, comme on dit souvent que l'Italie est un laboratoire politique de ce qui nous attend. Est-ce que c'est l'avenir qu'on peut envisager en France?
Je ne veux pas être sévère avec nos amis italiens, mais jusqu'à présent, ça n'était pas un laboratoire politique dont on voudrait prendre le modèle. Et pourtant, avec une proportionnelle intégrale, c'est peut-être celui vers lequel nous devrions aller.
Alors, si on avait une dose.
Et à l'inverse, on a une proposition plus récente déposée par mon collègue Patrick Mignola, qui prévoit que dans certains départements on vote à la proportionnelle et pas dans d'autres. Moi, je pense qu'il faut en débattre. Parce qu'effectivement, on voit bien, et Gilles Legendre, mon prédécesseur, s'est exprimé il y a quelques jours et semblait favorable à une proportionnelle à 100%, qui n'est pas l'engagement présidentiel que nous avions. Donc, moi, je pense qu'il faut apaiser la discussion, qu'il faut très vite qu'entre responsables de partis politiques et de groupes, nous puissions trouver le chemin. Mais je crois que, dans le contexte actuel, les Français se préoccupent assez peu de savoir la façon dont nous allons être élus ou réélus ou battus.
C'est justement ce que j'allais vous demander. C'est incroyable que la question des scrutins des institutions revienne à ce moment précis. C'est une question qui revient régulièrement dans le débat politique. Mais après tout, elle est posée au sein même de votre majorité par l'un des soutiens du président de la République, par François Bayrou. C'est vous qui posez le problème sur la scène publique.
Vous avez...
Et à ce moment précis...
Le vous étant la majorité présidentielle, je n'ai pas encore adhéré au MoDem, et je reste à La République En Marche. Mais oui, François Bayrou, qui en septembre pensait qu'il était un peu tard pour aborder ce sujet et disait c'est une question de début de quinquennat.
En pleine crise sanitaire et en pleine crise économique et sociale, on est vraiment...
Il faut reconnaître en François Bayrou que là-dessus, c'est une constante. Tout son combat politique a toujours
été fait en faveur de la proportionnelle. On l'entendait plus depuis deux ans. Là, tout à coup, il y a une offensive médiatique. On a du mal à comprendre pourquoi il y a cette offensive.
Oui, mais il y a plusieurs personnalités politiques qui se sont exprimées. Vous savez, le nombre de fois où moi je m'exprime et où ça fait pchit et on n'en parle pas.
Vous dites les Français ne sont pas prêts
avant 2022. Vous ne voulez vraiment pas parler les unes après les autres.
On va le faire. On va obéir au chef, Ali. Est-ce que vous pensez que ça doit être fait avant 2022? Et que pense Emmanuel Macron? Peut-être que vous avez une idée.
Non, parce que je n'ai pas échangé avec Emmanuel Macron sur ce sujet-là. J'échange sur les sujets qui sont d'ordre législatif, et notre actualité législative est largement suffisante. Voilà. Ensuite, moi, mon sentiment est que ça n'est pas le moment adéquat pour
donc
dire...
Donc, il faut remettre ça au prochain quinquennat. Si
parlons tout
lieu.
De suite, débattons, déchirons-nous, parce qu'on sait très bien que la position des LR et du Parti Socialiste, au moins, est hostile à ce sujet. Je pense... Moi, je suis pour la démocratie apaisée, surtout quand on combat, parce qu'on combat encore le virus.
Alors justement, pour apaiser la Solène démocratie, faut-il changer les institutions ? Est-ce que ça doit être une promesse, un chantier de la présidentielle, de la campagne présidentielle ou pas ? Est-ce qu'il faut revenir, par exemple, sur le quinquennat ou pas ?
Alors, je pense qu'il faut profiter de l'élection présidentielle qui va venir pour s'interroger sur le fait démocratique. On voit bien aujourd'hui comment la démocratie représentative est mise en cause, comment l'échéance de 5 ans pour les députés, pour le président de la République est contestée, comment les citoyens ne se sentent pas en phase avec ces sujets-là. Donc je pense vraiment qu'il faut ouvrir ce chantier-là et que l'élection présidentielle doit nous permettre cela. Mais en même temps, ce que je sais, c'est qu'on est dans une société qui vit de crise en crise, et que la stabilité des institutions est aussi utile. Donc il faut trouver ce point d'équilibre. Mais oui, aujourd'hui, on a un doute sur la chose politique, sur les représentants politiques. C'est vrai pour les maires. Je l'ai été pendant 17 ans, j'ai vu cette évolution. Je discute avec les maires de mon territoire des Alpes-de-France, eux aussi le sentent. C'est vrai pour les députés, pour les sénateurs, peut-être plus encore pour les sénateurs sur la question de la représentativité démocratique. C'est vrai pour le président. Ben oui, profitons de la campagne présidentielle pour réfléchir à ces sujets-là.
Midi et demi, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner, est l'invité de France Inter, du journal Le Monde et de France Info.
France Inter, Ali Badou, question politique.
Votre portrait, Christophe Castaner, il est signé Karine Bécard.
Tout est allé tellement vite, Christophe Castaner, depuis que vous êtes devenu macroniste, une trajectoire accélérée qui a duré jusqu'à l'été dernier. Jusqu'à l'été dernier, quand il vous a fallu retourner à l'Assemblée, certes, vous présidez le groupe de la majorité, mais après 3 années passées au gouvernement, vous avez été prié de redevenir député. Décidément, c'est rude, la vie en politique, même quand on a, comme vous, Christophe Castaner, la peau tannée parce qu'on a décidé d'en faire son métier. Vous avez commencé, comme tant d'autres, dans les cabinets ministériels pour apprendre et pour vous rôder. Ancrage territorial ensuite, c'est un classique. L'ancien caïd de Manosque décroche la mairie de Fort-Calquier. Belle revanche, socialement et personnellement, à seulement 35 ans. Et puis vous continuez à avancer, à vous installer. Au conseil régional de PACA, vous êtes élu vice-président en attendant la Cour des Grands, la vie politique nationale. Vous deviendrez député sous François Hollande pour la première fois à 46 ans.
Aujourd'hui, l'essentiel, c'est le retour de la croissance, de la confiance et, comme le disait hier le président de la République, de l'espérance. Pour cela, nous devons agir vite. Car comment retrouver l'espérance quand 6 millions de jeunes sont au chômage en Europe, pire, quand ils sont 14 millions sans travail, sans études et sans apprentissage.
Et pendant 5 années, Christophe Castaner, sous le précédent quinquennat, vous avez sacrément bossé rapporteur de plusieurs textes de loi, mission d'évaluation, groupe d'études, vous avez pas mal enchaîné sur un domaine en particulier, l'emploi, le travail et la compétitivité. Avec Emmanuel Macron, autant dire que vous étiez fait pour sympathiser. Non, ce qui est surprenant finalement, c'est qu'avec un tel parcours, plutôt logique et consacré donc aux questions économiques, comment avez-vous pu songer, comment avez-vous pu oser batailler pour devenir ministre de l'Intérieur ? Jox, Chevènement, Sarkozy, Valls ont toujours incarné l'autorité. Ils ont été d'incontestables experts en matière de sécurité. Voilà pourquoi, probablement, Christophe Castaner, vous avez, comment dire, un peu pataugé, certes dans un contexte réputé compliqué. Vous avez plusieurs fois dérapé, comme ce 1er mai 2019, à la Pitié-Salpêtrière, après un défilé qui avait mal tourné.
Des gens ont attaqué un hôpital. Des infirmières ont dû préserver le service de réanimation. Nos forces de l'ordre sont immédiatement intervenues pour, au fond, sauver le service de réanimation.
Personne, en réalité, n'avait attaqué cet hôpital et vous avez dû rétro-pédaler. Aujourd'hui, Christophe Castaner, à 55 ans, après 3 ans et demi de Macronie, vous avez été 6 mois porte-parole, 12 mois patron du parti d'Emmanuel Macron, 18 mois en charge des relations avec le Parlement et 20 mois ministre de l'Intérieur. Tout a beaucoup bougé. Vous n'avez jamais eu le temps d'imprimer. vous n'aurez été que là où le président l'a souhaité.
Réaction, Christophe Castaner.
Trois réactions. D'abord, une du registre personnel. Sortez un peu du mythe, et je reprends votre mot, le caïd de Manosque. Ça, c'est l'invention journalistique. Il se trouve que j'ai quitté mes parents jeunes, pour des raisons très personnelles, et que 3 ans plus tard, j'ai passé mon bac en candidat libre. Tout seul. Je bossais pendant ce temps-là. J'ai passé mon bac, je l'ai eu, j'ai réussi à faire des études, et en cela, la République m'a aidé aussi. Mais sortez de ce mythe qui voudrait, qui est un mythe d'ailleurs colporté par le, je suis désolé, mais ça m'agace un peu, par le Front National, qui a même publié des photos de moi truquées, etc. Donc voilà, je n'ai jamais été un caïd manosquin, même si je pense qu'on peut faire des fautes, y compris des fautes de jeunesse dans sa jeunesse, mais ça n'était pas mon cas. Deuxième élément sur
vous avez fréquenté l'attaque. Quand même le milieu marseillais, on peut présenter les choses comme ça ou
non
pas
non, j'ai reconnu avoir été un joueur de poker qui à l'occasion a pu jouer avec des gens qui n'étaient pas du milieu marseillais et qui était plutôt du milieu manosquin. C'est cela que j'ai dit, et à partir de là, une légende urbaine est née, et donc je pense qu'il ne faut pas la colporter. Deuxième élément plus politique. Sur l'attaque de l'hôpital, si on reprend toute la séquence, j'arrive à cet hôpital parce qu'un CRS a été placé en service d'urgence après avoir été blessé lors de la manifestation du 1er mai. Et il y a le chef de service de réanimation, la directrice, je crois, de l'hôpital, qui avant moi s'exprime et évoque l'attaque qu'ils ont subie. Parce que c'était leur perception. Et j'ai rebondi sur leur perception avec leurs mots. 3 jours plus tard, on a vu qu'il y avait eu 2 portails qui avaient été fracturés pour que les manifestants rentrent et qu'ils ont tenté de forcer les ouvertures à l'intérieur. Je me suis excusé sur le choix du mot parce qu'il n'était pas le bon. C'est aussi ça la réalité, mais on peut remettre les choses dans leur contexte. D'un chef de service en réanimation qui n'est pas un politicien, qui cherche pas et qui manifestement à ce moment-là a eu peur et je ne lui en veux pas parce que j'ai repris ses mots mais il n'avait pas lui l'analyse politique que j'aurais dû avoir à ce moment-là. Troisième élément sur le fait d'être là où le président a voulu, ça n'est pas le cas. Je suis président du groupe La République En Marche parce que j'ai été élu par les députés de La République En Marche et le président de la République ne m'a pas demandé d'être président du groupe de La République En Marche.
Voilà qui est très clair et vous avez pu répondre à Karine Bécard. Revenons à la situation politique et à ce qui se joue pour nous tous, à savoir la lutte contre la pandémie. Il y a quelque chose d'assez curieux, c'est la difficulté à comprendre la stratégie sanitaire. Est-ce que vous, vous la comprenez, vous la trouvez plus lisible que beaucoup de citoyens, Christophe Castaner? Est-ce que aujourd'hui, par exemple, vous avez le sentiment que les campagnes de vaccination ont atteint le rythme qu'elle devait atteindre. Et est-ce que vous pensez que nous pouvons tous souffler, peut-être de soulagement, en nous disant que nous ne serons pas reconfinés ?
D'abord, je pense que c'est un combat permanent et qu'aucune décision peut être annoncée maintenant, notamment sur la question du confinement. Le président de la République, le gouvernement suivent au jour le jour les évolutions. Je peux vous dire que vendredi, il y avait 20 701 personnes dans notre pays qui ont été déclarées positives, qui ont eu 320 décès. Vendredi, mais qu'on a eu moins 583 hospitalisations et moins 39 hospitalisations en réa. Ce sont ces indicateurs-là qu'en permanence le gouvernement suit et en fonction de ces indicateurs, il est amené à prendre des décisions. Alors vous parlez de la lisibilité de tout ça. Au fond, donner de la lisibilité sur quelque chose que vous maîtrisez est relativement facile. Vous pouvez prendre une mauvaise décision, une bonne décision. Là, il y a énormément de sujets que vous ne maîtrisez pas, il faut prendre des décisions. Je l'ai vécu en étant ministre de l'Intérieur sur la gestion du premier confinement. Oui. Je le vis aujourd'hui comme observateur, comme vous, en étant à l'Assemblée nationale avec un niveau d'information qui, je crois, est le même que vous, avec des évolutions que vous ne maîtrisez pas. Pas vous, journaliste, que nous ne maîtrisons pas. Mm-hmm. Notamment celle du variant. Et des variants qui peuvent venir. Notamment les accidents industriels dans la production de vaccins. Il y avait plus de 100 entreprises qui ont postulé pour dire on est capable de faire un vaccin. Finalement, aujourd'hui, il y en a 3, 4, 5 sur le marché qui sont susceptibles de produire du vaccin.
On est au niveau de l'accident industriel ?
Non, mais pour certaines, oui, bien sûr qu'il y a des accidents industriels. Quand des entreprises aussi puissantes, aussi fortes, dont on peut être fier, comme Sanofi, se fixent un objectif et qu'elle n'atteint pas son objectif, je considère que c'est un accident industriel. Mais ça ne veut pas dire que l'entreprise est condamnée. Ils rebondissent, ils vont travailler sur d'autres chemins en matière vaccinale. Ensuite, c'est cela la réalité. Alors oui, Dans ce monde incertain, il faut prendre des décisions qui, quelquefois, peuvent faire débat. Mais ce que je sais, c'est qu'au moment où je vous parle, il y a 2 220 762 personnes qui ont fait l'objet d'une première injection et 617 000 en France qui ont fait l'objet d'une deuxième dose. Ce que je sais, c'est qu'il y a de toute façon une carence mondiale de production de vaccins par rapport aux besoins mondiaux et que la France s'en sort bien. Alors on peut en débattre, on peut dire que rien ne va, mais on peut aussi constater que les objectifs et les engagements du gouvernement pris et annoncés par le Premier ministre mi-décembre devant le Parlement sont tenus, sont même légèrement améliorés.
Vous diriez qu'il y a un problème de communication ou c'est un problème de stratégie sanitaire au fond ?
Non, je pense qu'il y a pas de problème de stratégie sanitaire avec les données que nous avons. Et je pense que sur un sujet qui est un sujet d'angoisse profonde de nos concitoyens, en France comme partout dans le monde, ça ne se règle pas par la communication. Et même si vous êtes le meilleur communicant du monde, et j'avoue ne pas savoir qui je pourrais vous citer sur ce sujet-là, au fond, vous avez forcément de l'angoisse qui se crée. C'est un sujet extrêmement anxiogène. On a commencé sous forme de clin d'œil en évoquant ce qui ne pourrait pas faire la Saint-Valentin comme ils auraient aimé la faire. On sait bien que nos concitoyens sont dans cette contrainte-là, dans cette tension. Et donc on peut pas, parce qu'on serait bon communicant, leur dire « ne vous inquiétez pas, tout va bien ». D'autant qu'on ne maîtrise pas tout.
Oui, mais on ne maîtrise pas tout. Mais est-ce qu'il n'y a pas une prise de risque politique quand Emmanuel Macron nous dit que si on veut être vacciné, nous tous, si on est volontaire, enfin si on est d'accord, eh bien on le sera à la fin de l'été. Là, pour le coup, il y a aussi des choses qu'on ne maîtrise pas. Vous l'avez dit, des accidents industriels. On ne sait pas si l'AstraZeneca est aussi efficace qu'on l'avait dit, face de variants. Est-ce qu'il ne faudrait pas dire, on va faire le mieux possible, mais je ne peux pas vous promettre que vous serez tous vaccinés.
Et en même temps, on a un besoin de transparence, en particulier sur le vaccin. Et donc, moi, je pense que l'option qui a été prise par le gouvernement, qui avait annoncé, par exemple, qu'il y ait fin janvier 1 million de personnes qui seraient vaccinées. Finalement, ça a été 1 million 3, 1 million 4. Fin février, 4 millions. Fin mars, 9 millions. Fin avril, 20 millions, avec l'objectif de l'été. C'est lié aux commandes, aux capacités de production actuelles des différentes entreprises.
On peut commander des choses et pas recevoir. Dans ce cas-là, on est si on reçoit les doses, tout le monde pourra. Ça, on comprend. Mais
on aurait reproché, je pense, au président de la République. Et peut-être que certains d'entre vous m'auraient posé cette question de dire, mais c'est flou. Et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et donc, on a aussi besoin.
C'est toujours Martine Aubry, on adore.
C'est toujours Martine Aubry.
La grand-mère. Ouais.
Voilà. Alors, je n'ose plus parler de la grand-mère parce que je l'ai utilisée une fois et on l'a prêté comme un propos reproché à un autre. Non, j'ai pensé à Martine Aubry vu que j'avais parlé de cette formule-là. Je ferme la parenthèse. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est aussi la responsabilité du président du gouvernement de fixer des objectifs et de nous rassurer.
Et de convaincre les Français d'aller se faire vacciner puisqu'il y a encore de très fortes résistance à la vaccination.
Alors, de moins en moins, mais vous avez raison, d'entrée, il fallait aussi le faire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut rassurer, et le rôle du président de la République, c'est de fixer des objectifs ambitieux, y compris à son administration, y compris à son gouvernement, et c'est ce qu'il fait. Il l'a fait, et j'en ai été témoin, quand il a fixé la date du déconfinement sur le premier confinement. S'il nous avait écouté, peut-être même que s'il m'avait écouté, il n'aurait pas fixé une date aussi ambitieuse. Il a fixé une date ambitieuse pour nous contraindre aussi à tout mettre en œuvre pour atteindre nos objectifs.
C'est lui qui pousse.
Je pense qu'il est dans son rôle quand il fait ça.
Mmh. Malgré tout, ce qu'on aimerait comprendre, c'est quel rôle jouent aujourd'hui les scientifiques dans la prise de décision de l'exécutif. Parce que les scientifiques, ils ont été très très sollicités et très très écoutés tout l'année dernière. Et puis on sent bien que la relation, elle a complètement changé là. Et qu'aujourd'hui, c'est le politique et c'est en particulier le chef de l'exécutif, Emmanuel Macron, qui décide. Donc, pourquoi ce changement? Pourquoi ce revirement? Quel rôle aujourd'hui, véritablement, jouent encore les scientifiques?
Christophe Castaner.
Je crois que toutes les décisions, et j'ai vécu une première phase en étant aux côtés des scientifiques et du président, et aujourd'hui moins, donc je ne voudrais pas garantir ce que je vous dis, mais je pense que toutes les décisions sont construites sur le regard des scientifiques, avec la donnée des scientifiques. À un moment donné, avec des incertitudes sur tout. Et donc la parole du scientifique était la seule référence. Aujourd'hui, on a une connaissance quand même au bout d'un an de gestion de crise de notre capacité à réagir plus vite sur certains sujets, à anticiper, à prendre de la distance par rapport à certaines alertes, parce qu'à certains moments, il faut aussi. Et donc on est dans une situation équilibrée où il y a la donnée scientifique et il y a la parole politique. La parole politique se construit à partir de la donnée scientifique, mais doit par exemple trouver ce point d'équilibre entre deux tendances. Pour le scientifique, le confinement absolu est la meilleure façon, et il a raison, de tuer la propagation du virus. C'est évident. Et en même temps, le politique doit prendre en compte le fait que mettre le pays sous cloche, c'est générer des problèmes économiques, sociaux, psychologiques, par exemple, et on le voit avec les étudiants, où il a fallu donner de l'air. Quand on donne de l'air en disant les étudiants peuvent revenir au moins un jour, et quelquefois plus par semaine, on augmente le risque d'un point de vue diffusion du Covid. Mais c'est ce point d'équilibre. Et aujourd'hui, je pense que quand le président de la République, à un moment où tout le monde s'attendait que nous annoncions le reconfinement du pays, dit « les chiffres aujourd'hui ne me conduisent pas à penser qu'il faut, et c'est le Premier ministre qui l'annonce, reconfiner », je pense que l'un et l'autre sont dans leur rôle.
Il y a aussi la question du climat. C'est un sujet qui est passé au second plan, Christophe Castaner, depuis que nous vivons avec et contre le Covid. Il y a eu un projet de loi climat qui a été présenté au Conseil des ministres avec des mesures qui ont été reprises parmi celles qu'ont décidé les 150 citoyens de la Convention pour le climat. Le projet de loi climat et résilience, est-ce qu'il est à la hauteur des ambitions? Est-ce qu'il est à la hauteur des enjeux climatiques d'aujourd'hui?
Je crois qu'il l'est. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que la culture politique n'est pas la même partout. Les Verts allemands ont interpellé Angela Merkel il y a quelques jours en disant « prenez modèle sur ce que fait la France ». Et nos Verts à nous sont plutôt dans un populisme vert qui conteste tout toujours. Ce que je sais, c'est que la Convention citoyenne, les 150 citoyens, ont fait 149 propositions, que le président de la République, le gouvernement sont engagés à en traduire 146. Certaines relèvent du législatif et sont dans le texte de loi. C'est 40% qui relèvent du législatif, c'est dans le texte de loi. Et maintenant, c'est le temps du Parlement pour mettre en droit et en objectif politique, les ambitions portées par la Convention citoyenne.
Et pourquoi ne pas les avoir reprises sans filtre, comme le président l'avait promis?
Mais on reprend toutes les propositions. Ensuite, on les traduit en droit. Les 150 citoyens n'étaient pas des juristes avec des administrateurs et n'écrivaient pas une loi. Ils fixaient des objectifs. Ces objectifs, nous les reprenons. Il y en a trois qui ne sont pas repris. Aucun n'est écarté. Ensuite, on va travailler, par exemple, sur la temporalité. Parce que on peut dire, il suffit de claquer des doigts et tout va s'arrêter d'un coup. On sait les conséquences que ça a. Je vous prends un tout petit exemple. C'est le premier texte sur lequel j'ai eu à peser politiquement quand je suis devenu président du groupe. C'est la possibilité d'utiliser des néonicotinoïdes pour sauver 46 000 emplois de la filière industrielle du monde agricole aux entreprises. Je pense que j'ai été le premier maire de France à Fort-Calquier à interdire à l'époque le gaucho et le régent. On était au début des années 2000. Je peux vous dire que c'est dans ma conviction profonde de lutter contre les néonicotinoïdes. Mais à un moment donné, vous avez en face de vous une filière économique, celle du sucre. Et vous dites, est-ce que je réouvre pendant 3 ans, de façon temporaire, encadrée, la possibilité d'utiliser des produits, ou est-ce que je ferme les yeux et demain je vais me contenter d'avoir du sucre qui viendra de Pologne, où on ne se pose pas ce genre de problème. Eh bien, il faut trouver ce point d'équilibre. Et ça, c'est le rôle du législateur, c'est le rôle du gouvernement pour les décisions qu'il prend. Eh bien, c'est ce que nous allons faire dans la commission spéciale que nous installerons cette semaine. C'est prendre en compte toutes ces données, mais porter cette ambition, et nous ne céderons rien à l'ambition de lutter contre le réchauffement climatique.
Vous redoutez un débat tendu, parce que le groupe En Marche est très divisé sur la question de l'écologie.
Moi, je redoute aucun débat. Je les affronte. Et quand ils sont difficiles, je les traite. Ce sera aussi ma responsabilité de trouver les points d'équilibre entre les uns et les autres. Vous savez, on nous avait annoncé un débat sur le projet de loi séparatisme qui serait terrible. Et je tentais, depuis quelques mois déjà, de rassurer les journalistes qui me disaient cela en leur disant « ne vous inquiétez pas, je pense qu'on aura des sujets de divergence, et on en a, mais on va bien les traiter ». Cette loi, elle a été adoptée dans le débat hier, et elle sera fortement adoptée mardi, sans qu'il y ait eu de désordre. Ben, je souhaite la même chose.
Vous parlez de la loi sur le séparatisme. Les principes républicains.
Mais là, vous avez quand même une partie de la majorité qui demande à aller beaucoup plus loin sur cette loi climat et résilience.
Et il y avait une partie de la majorité qui voulait aussi aller beaucoup plus loin ou beaucoup moins loin selon la position sur la loi valeur de la République. Et donc, nous débattrons entre nous, mais toujours avec cet objectif-là de faire en sorte que la loi climat-résilience, elle porte l'ambition du pays. Et en plus, elle porte cette ambition très particulière. Tout à l'heure, il y avait une question institutionnelle.
Oui.
Moi, je crois que le choix qu'a fait le président de la République de mettre 150 Français, de les accompagner dans ce débat-là, est un choix qui est important, et nous devons aussi être fidèles à ce choix.
Donc concurrencer la démocratie représentative que vous incarnez, que vous représentez.
Moi, je pense qu'on dialogue. Je pense que c'est indispensable. Et alors, ça fait débat. Quand le président de la République et le Premier ministre annoncent qu'on va demander à 35 citoyens de suivre la politique vaccinale, là, on nous dit, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Ce que je sais, c'est que si j'avais proposé, moi, 35 députés pour commenter la politique vaccinale, personne ne leur aurait accordé leur confiance. C'est dur, au final, mais c'est comme ça. Et donc, on doit trouver ce dialogue entre les citoyens sous cette forme-là, sous d'autres formes, les parlementaires. Maintenant, c'est le temps du Parlement et nous allons traduire ces objectifs que nous partageons tous dans la majorité présidentielle.
Alors justement, est-ce qu'il faut compléter le premier article de notre Constitution pour préciser que la France garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique? Est-ce que ces mots-là doivent figurer en tête de l'article 1 de la Constitution?
C'est ce que je défendrai dans la discussion à l'Assemblée nationale. Et ensuite, il y aura débat avec le Sénat. J'ai vu que le Sénat n'entendait pas respecter ce mot-là. Il y aura discussion, mais je défends cette
position-là. C'est le mot garantie. Tout se joue autour du mot garantie.
Il est beaucoup plus puissant. Et il nous oblige. D'ailleurs, il nous oblige collectivement. Il n'oblige pas que, et j'invite nos auditeurs à avoir cela en tête, il n'oblige pas que le gouvernement à faire. Hein. Il nous oblige, nous. Et en matière de réchauffement climatique, de combat sur ces sujets-là, on est aussi tous acteurs. Prenons aussi nos responsabilités au quotidien, dès tout à l'heure du déjeuner.
Solène Deroyer.
À un an de la présidentielle, c'est pas un peu risqué d'organiser un référendum, dès lors qu'on sait bien que les Français ne répondent pas toujours à la question qu'on leur pose?
Oui, Christophe Castaner.
Ce sera 6 mois. Donc à 6 mois d'une élection présidentielle, c'est raisonnable d'organiser un référendum.
On est toujours surpris quand on fait des réponses.
Vous dites que c'est risqué.
Oui, je pense que ça
présente un risque. C'est un risque politique pour Emmanuel Macron.
C'est un risque et c'est aussi un signe de courage politique.
Donc faut le faire.
Ah oui, c'est la volonté du président de la République et donc d'inscrire dans la Constitution et le chemin du référendum peut nous permettre cela, donc faisons-le.
Mais il a raisonnablement une chance d'aboutir, ce projet de référendum, parce que l'on fait comme
inquiet,
si on était...
Là, les inquiets,
concrètement, comment convaincre le Sénat? Parce que pourquoi le Sénat vous offrait-il un tel cadeau?
Peut-être parce que le Sénat pourrait se dire que la question du climat, la question de la résilience dans notre pays est importante. Je pense qu'à un moment donné, même le Sénat peut se rendre compte de cela. Excusez-moi, je suis un peu provocateur, mais je pense qu'il y a effectivement aussi un débat plus classique entre les progressistes et les conservateurs, mais je pense que les conservateurs doivent aujourd'hui s'emparer aussi de ce sujet du combat contre le réchauffement climatique, que ça n'appartient pas à la gauche, à la REM, à la droite, que ça doit être un sujet de responsabilité politique majeure. Moi, j'ai envie de pouvoir projeter notre pays, j'ai envie de pouvoir penser que mes filles auront les conditions de vie que j'ai eues et que leurs enfants auront les conditions de vie qu'elles ont eues. C'est ça aussi la question dont on parle.
Une toute petite question un peu politicienne, parce que vous venez quand même du PS. Quand Audrey Pulvar
dit... C'est pas grave.
On s'en sort. Anne Hidalgo fera du petit bois d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez une forme d'inquiétude vis-à-vis de ce qui se passe à gauche? Ou alors vous vous dites, bah, tant qu'il y a Jean-Luc Mélenchon qui, de toute façon, sera là jusqu'au bout, ils seront tellement divisés que c'est pas de là que viendra le problème.
Non, juste vous dire que je trouve que c'est pas tout à fait le bon niveau de débat que d'avoir cette arrogance-là de dire Anne Hidalgo fera du petit bois d'Emmanuel Macron. Je pense que le débat politique mérite mieux que cela.
Eh ben, attends, mais c'est pas sûr. Et la suite, Jean-Luc Mélenchon, le fait qu'il soit candidat pour toujours, est-ce que finalement c'est pas votre meilleure garantie d'avoir une gauche divisée, alors que si on, arithmétiquement, on additionnait la gauche, les Verts et Jean-Luc Mélenchon, eh ben, il y aurait une possibilité pour vous d'être battu?
C'est bien la première fois que je penserais que Jean-Luc Mélenchon est ma meilleure garantie.
Vous comprenez bien ce que je veux dire.
Voilà. Oui, je comprends bien. La division de la gauche, elle est d'évidence. Mais je pense qu'il n'y a rien à voir entre le Parti Socialiste que je connais bien, que j'ai bien connu, et Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Le populisme de Jean-Luc Mélenchon n'a rien à voir avec le Parti Socialiste. Le populisme vert aussi, dont je parlais, fait que là aussi, il y a une forme de gauche irréconciliable. Donc de toute façon...
C'est qui le populisme vert, par exemple?
Ah mais j'ai pas besoin de l'incarner, ce discours du Yaka Faucon, ceux qui manifestaient devant l'Élysée mercredi matin, alors qu'ils n'avaient même pas eu le texte et qui dénonçaient le fait que le projet de loi était pas suffisant, etc., sont de toute façon dans l'incantation. Moi, je veux faire de la transition écologique, je veux faire du combat contre le réchauffement climatique dans le concret, pas seulement dans l'incantation ou dans la parole. Je suis pas là pour me faire plaisir quand je suis député dans l'hémicycle. Je suis là pour faire et faire des choses.
Mais que pense l'homme de gauche, l'homme qui vient du Parti Socialiste, de l'idée d'installer un
revenu jeune. Vous pouvez même me qualifier d'homme de gauche.
Vous êtes toujours de gauche?
Je me sens totalement homme de gauche.
Non, mais c'est une bonne question parce que certains refusent de continuer à utiliser ces mots-là pour caractériser les grandes lignes de clivage.
Non, mais dans ma culture, je me revendique comme de gauche, même si aujourd'hui le dépassement politique, c'est construire une politique qui prend ce qui nous paraît le meilleur et qui peut venir de la droite, de la gauche, et surtout arrêter de se poser la question, quand un interlocuteur vous parle, de savoir s'il est de gauche ou s'il est de droite pour savoir s'il a raison ou tort. Ça, c'est idiot.
C'était juste pour poser la question d'un revenu jeune, en tout cas d'un revenu universel. Certains aimeraient que ce soit un RSA qui serait adressé spécifiquement aux 18-25 ans. On a entendu aussi la proposition d'envisager un prêt pour les jeunes et qui permettrait de se lancer dans la vie. Quel est votre regard sur la question ?
Il y a deux choses très différentes, hein, entre le revenu universel accordé aux jeunes parce qu'ils sont jeunes et le prêt pour construire un projet de vie. On est sur deux approches différentes. Moi, je préférerais toujours prendre quelqu'un par la main et l'accompagner plutôt que de lui donner une indemnité. Et quand je regarde ce qui se passe en ce moment, où on sait bien comment la crise économique et sociale que nous connaissons a des effets sur les jeunes, je constate que depuis du mois d'août au mois de décembre, il y a 1,2 million de jeunes dans ce pays qui ont trouvé un emploi, qu'on en a 500 000 qui sont rentrés en apprentissage en 2020, ce qui est un chiffre exceptionnel, et qu'on en a 600 000. Ça, c'est moins connu. 600 000 qui sont dans un dispositif d'accompagnement ou d'insertion. Et donc, plutôt que de donner 500 euros par mois à quelqu'un comme ça, je préfère qu'on le prenne par la main et qu'on la mette dans un dispositif d'accompagnement ou d'insertion. C'est ce que Elisabeth Borne porte avec ce concept et ce combat d'un jeune, une solution. Mais moi, je préférerais toujours ça. Faire le pari de l'insertion, de la formation, de l'apprentissage pour donner les clés à quelqu'un plutôt que de faire le pari de l'indemnité.
Karine Becker.
Alors, je voudrais poser une question à l'homme de gauche en parlant de ces deux radios privées, je pense à nos concurrents RTL et Europe 1 qui sont en vente en même temps. Il y a un homme qui se montre très très intéressé, c'est Vincent Bolloré qui est actuellement le patron de Canal+, qui est le patron également donc du coup de CNews, dont on dit qu'il l'a fortement droitisé dans l'expression qu'on entend sur cette télé-là. Est-ce que l'achat d'une de ces deux radios, que ça soit Europe 1 ou RTL, qui passe sous la coupe de Vincent Bolloré, et quand on voit ce qu'il en a fait, ou ce qu'il pourrait en faire, est-ce que ça a une forme d'inquiétude, est-ce que ça génère une forme d'inquiétude pour vous, pour la majorité que vous représentez ?
Christophe Castaner.
Est-ce que moi, c'est quelque chose que vous observez ? Je ne veux pas faire de procès d'intention à tel ou tel, à Vincent Bolloré, mais il est sûr que l'instrumentalisation d'un grand média à des fins politiques m'interroge et me pose problème. Et je ne dis pas forcément ça, notamment pour CNews. On fait souvent la comparaison avec Fox News et vous connaissez l'histoire de Fox News. Et je vous invite à regarder une série d'ailleurs sur ce sujet qui est absolument extraordinaire, qui est assez proche de la réalité et qui voit comment Fox News a été un objet politique.
Pour Donald Trump,
cette idée-là m'inquiète. Mais il ne m'appartient pas de savoir si tel ou tel porte cela.
Est-ce qu'on doit d'ores et déjà se préparer à un été sans festival pour retrouver justement l'esprit de la Saint-Valentin et de la fête et de tout ce dont nous sommes privés, Christophe Castaner ? Solidays a déjà annulé son édition 2021. Pour vous, on peut envisager encore un été où la culture serait reléguée au second plan, incapable de s'exprimer ?
La culture n'est pas reléguée au second plan. Par contre, elle n'a plus sa forme d'expression et c'est un drame. Dans votre question, vous évoquez ce drame-là et je le sens bien, y compris dans nos pratiques personnelles. Mais je pense aussi à celles et ceux qui font vivre la culture, qui sont particulièrement accompagnés, mais qui ne demandent pas à être accompagnés. Ils demandent justement à pouvoir exprimer leur volonté culturelle. Préparons-nous non pas à la fermeture, mais à l'ouverture. Et faisons tout pour cela, et c'est ce que Roselyne Bachelot porte aujourd'hui. Faisons tout aussi dans notre comportement pour lutter contre le virus, les politiques de vaccination, les politiques de prévention, les comportements individuels. C'est autant de moments que nous devons faire comme des moments de conquête pour retrouver cet été la liberté d'aller voir un festival. Et préparons-nous aussi à des formes différentes dans les salles, dans les jauges, dans nos comportements. Mais la ministre en fait un combat et elle nous a derrière elle pour en faire un combat.
Nathalie. On s'éloigne de la Saint-Valentin. Tous les mouvements Balance ton port dans le temps et Science Sport aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez que c'est formidable cette libération de la parole? Ou alors est-ce que vous êtes complètement paniqué, non pas en tant qu'ancien homme de gauche, mais en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, de voir que ça se fait sur les réseaux sociaux et non pas au tribunal ou dans les commissariats? Et qu'on juge les gens qui peuvent être mis en examen sur la place publique sans qu'ils puissent se défendre?
Ah, mais ça, c'est une interrogation que vous devez poser aux médias aussi sur ce sujet. Et on voit bien comment le média, en fait, se transforme. C'est-à-dire que le média qui travaillait au fond des choses, des dossiers pour sortir une enquête, une information, est remplacé aujourd'hui par un média froid et anonyme, bien souvent, qui peut dire tout et n'importe quoi. Mais ça n'est pas ce dont on parle. Ce dont on parle, c'est une forme de libération de parole. Pardon. Et je pense vraiment que la libération de parole, elle est utile. Notamment sur la question de l'inceste, où il y a une double libération de parole. Celle de la victime, mais celle aussi du cadre familial. Parce que quelque part, il y a ce mot omerta qui revient de temps en temps.
Et ça, ça va passer par
les tribunaux. Oui, mais tout ce qui permet de libérer la parole, quelquefois ça peut aller trop loin, quelquefois ça peut brûler, y compris des femmes et des hommes qui sont innocents et qui sont mis en cause. Et donc ça doit nous interroger sur la façon de les protéger. Mais je ne dirai jamais que parce qu'il y a un risque, il faut qu'ils se taisent, je pense aux victimes. Jamais elles ne doivent se taire.
Et la question du consentement, elle est pour vous tranchée, l'idée qu'on ne peut pas imaginer un consentement d'un enfant ou d'une jeune personne de moins de 15 ans à un rapport sexuel ?
C'est notre position, le ministre
dans la loi.
De la Justice. Oui, et l'inscrire vite. Et d'ailleurs, j'ai pris des engagements comme président de groupe. Il y a une PPL en discussion actuellement à l'Assemblée. Il y en a une qui a déjà été votée au Sénat, mais qui, pour répondre à votre question, prévoit une minorité à 13 ans.
À 13
ans. Nous sommes favorables à une minorité à 15 ans.
Oui, c'est la question.
Et la constitution d'un crime spécial en cas de pénétration sexuelle pour les moins de 15 ans. Et nous intégrerons ça dans la loi. Et je vais accélérer le calendrier pour qu'on puisse débattre de la PPL dite Billon qui vient de l'Union centriste au Sénat le plus vite possible. Mon objectif est que nous puissions le faire dès le mois de mars avec une entrée en vigueur de la loi, pas seulement sur ce sujet, mais qui protège encore plus les victimes mineures de violences sexuelles avant cet été.
Merci Christophe Castaner
Merci
d'avoir été l'invité de Questions Politiques. L'émission se termine. Bon dimanche. Merci à Alexandre Gilardi et à toute l'équipe technique de Questions Politiques. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain.